La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour, bienvenue dans cette 36e émission de la Semaine de l'Art, la dernière de 2014. Nous reviendrons après les fêtes. Mais en attendant, nous recevons avec plaisir Jérôme Farigoul, directeur du Musée de la Vie Romantique à Paris, qui est arrivé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps.
Oui, bonjour Didier. Oui, je suis arrivé il y a un peu plus d'un an maintenant, ma prise de poste. C'était le 1er octobre 2013.
Voilà, donc on va pouvoir parler. Un an, ça permet d'avoir des perspectives, d'avoir déjà... beaucoup travaillé sur la programmation, sur les expositions, l'acquisition, etc. Donc nous parlerons de tout ça. Mais peut-être dans un premier temps, dites-nous, Jérôme, quelle est votre formation? Comment êtes-vous devenu conservateur? Et quel est votre parcours avant d'arriver au Musée de la Vie Romantique?
Alors, sans remonter aux temps immémoriaux, aux calendes grecques, c'est vrai que l'envie de travailler dans les musées, je crois, est quelque chose qui me taraude depuis mon plus jeune âge, ou en tout cas depuis relativement jeune. Et c'est vrai que j'ai entrepris depuis longtemps, de par mon cursus universitaire et mon cursus à l'école du Louvre, d'engager une carrière professionnelle dans le monde des musées. Et j'ai eu le bonheur et la chance d'y arriver. Alors ma formation est assez loin de mes préoccupations actuelles, puisque je suis un élève d'Alain Pasquier et de François Villard à l'école du Louvre, et donc mes premières amours étaient plutôt liées à l'archéologie grecque et à la peinture et céramique antique. Mais de par les aléas et les opportunités de mon parcours, je me suis très vite réorienté lors de mon premier poste à Marseille au sein de la conservation des arts décoratifs des musées de Marseille, musée Grobet-Labadier et musée de la Fayence, donc vers le monde de l'objet, le monde des arts décoratifs.
Alors c'est ça, vous étiez au départ effectivement, alors je ne savais pas que vous étiez au départ spécialiste de l'Antiquité, mais vous êtes très vite orienté donc vers les objets d'art, l'art déco. Ce que vous avez fait beaucoup donc à Marseille, peut-être dites-nous un peu plus sur Marseille et sur ces musées, et ensuite à Montpellier, l'hôtel Sabatier
d'Espéran.
Voilà.
Alors, à Marseille, c'était le pôle art décoratif qui constituait essentiellement de deux établissements à l'époque dans les années 90. C'était d'une part le musée de la Fayence qui venait d'ouvrir, qui était un musée monothématique autour des problématiques liées à la faïence provençale et au-delà de l'histoire de la céramique française. Et l'autre musée qui était un peu la tête de pont de notre pôle de conservation, qui était le musée Grobet-Labadier, qui est un musée de collectionneurs légué à la ville en 1921. Et donc, de cet intérêt pour les arts décoratifs, cet intérêt a basculé d'une certaine manière sur l'histoire des collections et sur aussi l'enjeu de réaménagement et de conserver un lieu qui est aussi le témoin d'un goût. Et c'est vraiment en ce sens-là et dans cette perspective que j'ai abordé mes autres postes et mes autres fonctions, en particulier à Montpellier, lorsqu'il s'agit de rénover l'hôtel de Cabrières Sabatier d'Espéran, qui est devenu 3 ans après la rénovation du musée Fabre, le département d'art décoratif du musée.
Alors, parlez-nous un peu plus de l'hôtel Sabatier d'Espéran, qui effectivement, sur la Tribune de l'Art, nous n'en avons pas parlé, bien que nous l'ayons visité, donc c'est un des articles de temps en temps, en fonction de l'actualité, où on a tellement de choses à dire que nous n'avons pas pu parler de cet hôtel qui, à mon sens, très bien restauré, qui est un apport important pour le musée Fabre, qui lui-même est déjà un très grand musée. Donc, dites-nous un peu plus l'origine des collections, l'origine du bâtiment. Et en quoi a consisté cette rénovation que vous avez suivie et pilotée?
Oui, alors donc c'est vrai que lorsque je suis arrivé au musée Fabre, j'avais en charge deux départements, qui était le cabinet des arts graphiques du musée, et une lettre de mission assez précise, qui était celle de rénover l'hôtel de Cabrières Sabatier d'Espéran, dans la perspective d'en faire le département des arts décoratifs du musée, achevant en cela la grande rénovation du musée Fabre. Alors, l'hôtel de Cabrières Sabatier d'Espéran est la dernière grand ensemble de collections rentrées au musée, puisqu'il a été légué en 1967 par René de Cabrières Sabatier d'Espéran, dans une perspective de doter ce grand musée de Beaux-Arts, et c'est elle-même qui le disait avec son mari dans les écrits qu'ils nous ont laissés, de doter le grand musée de Beaux-Arts, qui était le musée Fabre, d'un ensemble d'art décoratif à la hauteur de ses ambitions de grand musée musée de province. Et donc ce fonds était constitué ben, d'abord déjà de l'enveloppe globale du bâtiment, qui est un hôtel particulier construit dans les immédiates suites du Second Empire, et qui conserve ben, un grand décor d'une demeure de la haute bourgeoisie provinciale. Et donc tout l'intérêt de la rénovation de ce lieu, c'était justement d'être plus que dans une période Rooms, vraiment dans le témoin de ce qu'était la vie de cette haute société bourgeoise en province. On connaît ces grands décors d'esprit Napoléon III. L'hôtel particulier date de 75, construit entre 1875 et 1876, donc dans les suites immédiates de l'Empire, mais on reste quand même dans ce grand goût décoratif porté par l'éclectisme et l'historicisme de Napoléon III. Donc l'idée était vraiment de montrer ce que pouvait être ces grands décors dans les grandes demeures de province. On connaît cela dans les grands palais nationaux, l'état appartement du duc de Morny au Louvre ou Fontainebleau qu'on tienne conserve ce genre de choses, mais on a relativement peu de témoignages pour ce qui est de ces grandes demeures en province. On connaît des grandes maisons de collectionneurs, c'est le cas du musée Anglade à Avignon ou le musée Courbet-Labadie à Marseille, mais là l'idée c'était vraiment de présenter ce qu'est un grand ensemble décoratif constitué vraiment au goût du jour, à la mode de cette fin du XIXe siècle. Et ce qui était tout à fait intéressant dans la rénovation, c'était justement de voir combien les sabbatés les despouses de Paul, qui sont les ancêtres de René de Cabrières, sont vraiment complètement inspirés de ce qu'étaient les grands traités de décoration de l'époque. Et là, on avait des documents tout à fait intéressants, qui étaient l'art du tapissier de Neuville, qui décrit exactement ce qui a été mis en œuvre en fait dans la maison du musée Fabre.
Vous parlez de période Rooms, mais ce sont des décors authentiques, ce ne sont pas des décors remontés.
Exactement, on a vraiment restitué, autant que faire se peut, et reconstitué lorsque nous avions des manques, les grands ensembles. C'est vrai que une des problématiques de la rénovation de cet hôtel particulier, qui a subi un dégât des eaux dans les temps anciens, c'était de savoir si on était dans une restauration proprement dite, en conservant beaucoup des textiles Napoléon III, des soieries anciennes, des papiers peints anciens, et il nous a paru plus judicieux, en tout cas plus pertinent, pour redonner tout le lustre aussi à cette grande demeure qui est une demeure de prestige, d'être beaucoup plus dans une dépose de tous ces éléments, de les conserver et d'être dans une restitution à l'identique de tous ces décors. Ce qui a été pour nous un apport, enfin qui a été pour moi en tant que conservateur un apport tout à fait intéressant, puisque on s'est réimmergé avec l'architecte dans ce qui était un grand chantier de décoration à la mode du XIXe siècle. Et c'était tout à fait intéressant dans la mise en œuvre du travail, comment on a travaillé avec un principe de travaux d'atelier qui était la garniture des sièges, et puis des travaux d'appartement qui sont justement la pose des décors à l'intérieur.
Mais alors, la restitution, parce que les décors étaient en mauvais état ?
Alors, oui, les décors avaient déjà souffert du temps. Les sabbatiers d'Espéran, en fait, avaient conservé l'hôtel particulier sans jamais véritablement y habiter, donc ce qui fait qu'il n'y a pas eu de dépose ou de nouvelles décorations au cours de l'histoire du bâtiment. En revanche, il y a eu un entretien assez succinct, et il y avait en effet nécessité, du fait de l'empoussièrement aussi de ce dégât des eaux, de revoir une grande partie des décors.
Et les collections, quelle est la richesse des collections d'art décoratif du musée Fabre donc?
Alors, donc il y avait cet ensemble Napoléon III qui est en soi un ensemble tout à fait exceptionnel. Les sabbatiers ont donné aussi ce qui nous offrait une deuxième strate de collection.
Vous voulez parler de mobilier Napoléon III?
Oui, tout à fait. Une deuxième strate de collection qui était les collections de mobilier 18e et d'objets d'art 18e que les sabbatiers d'Espéran avaient réunis en tant que collectionneurs, ce qui permettait de proposer une présentation de ce que sont les grandes évolutions stylistiques de l'art au XVIIIe siècle. Là, comme on n'était pas du tout dans une perspective de décors originaux et d'ensemble de mobilier liés directement au lieu, mais qui était donc un ensemble réuni et de provenance hétérogène, on n'a pas été dans la perspective de recréer des périodes rousses, mais beaucoup plus de replacer les meubles dans une valeur d'usage en utilisant des éléments des grands décors que sont les tapisseries, mais aussi des tableaux de la collection Beaux-Arts du musée Fabre, pour remettre en perspective les ensembles mobiliers avec les ensembles de peinture.
Alors, en même temps que vous vous occupez de cet hôtel, vous êtes également chargé des dessins des arts graphiques, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Et donc, parmi les travaux, vous avez travaillé avec Eric Pagliano sur l'exposition de dessins italiens. Et est-ce que sur ces dessins, vous avez des choses intéressantes des découvertes que vous avez pu faire, ou c'était plutôt annexe finalement à votre activité de d'art décoratif?
Alors, sur les 10 ans passés au musée Fabre, il y a eu différentes périodes. Il y a eu la période de rénovation de l'hôtel de Cabrières-Sabatier d'Espéran, qui ne m'a pas occupé sur la totalité de ces 10 ans. Mais donc, j'avais aussi en charge le cabinet des arts graphiques. Et précédemment, à mon arrivée, il n'y avait pas de conservateur en charge complètement des arts graphiques. Et donc, l'enjeu qu'on avait mis en place avec Michel Hilaire, c'était justement de redonner une visibilité à ce cabinet d'art graphique qui est, non pas en quantité mais en qualité, un des plus importants cabinets d'art graphique de province. Et donc il y a eu deux grands axes de développement qui étaient d'un côté la publication des collections, et donc on a pu monter deux projets, un autour des dessins français 17e avec Mathieu Gilles en 2000,
Je vous avais parlé effectivement sur le site.
voilà, en 2011, et puis un projet de beaucoup plus grande envergure qui nous a occupé sur 3 années avec Eric Pagliano, donc ce chercheur bien connu qui a travaillé donc sur le catalogage de plusieurs grandes collections de dessins italiens dans les musées français, et donc justement le catalogage et la présentation d'une exposition consacrée au fonds de dessins italiens du musée Fabre, qui comporte des feuilles importantes de Guerchin, de Raphaël, de Daniel de Voltaire. Donc un cabinet tout à fait important, en l'abordant pas sur le simple aspect de catalogage d'une collection, mais aussi de montrer la place que le dessin a dans l'élaboration d'une composition finale. Et c'était les dispositifs très, très intelligents qu'avait mis en place Eric Pagliano dans l'exposition, montrer comment un dessin peut avoir plusieurs valeurs d'usage. C'était le cas autour du dessin préparatoire de Raphaël pour la dispute de Saint-Sacrement, ou la grande feuille de Daniel Volterra que j'évoquais tout à l'heure, qui est en fait un dessin, qui est une composition qui sert à 3 autres compositions de Daniel Voltaire. Et tout ce réseau assez complexe de première pensée, puis ensuite d'utilisation de ces pensées dans d'autres compositions, était extrêmement intéressant à aborder avec ce chercheur.
Alors, venons-en maintenant à Paris, puisque donc vous êtes monté à Paris, comme Rastignac peut-être, et pour conquérir la capitale, en tout cas pour conquérir le musée de la vie romantique, qui est un des musées, je crois, donc vraiment passionnant, puisque il porte sur le 19e siècle, le 19e siècle un petit peu moins connu, c'est pas les impressionnistes. C'est la période romantique, c'est Harry Schéffer d'abord. Le musée d'ailleurs s'appelait avant Musée Roland Schéffer. Peut-être que pour les auditeurs, vous pouvez faire un petit peu un historique de ce musée que je me rappelle avoir visité il y a très longtemps. C'était avec la société, soit avec la Société pour l'histoire de l'art français qui existe toujours, soit avec l'association de l'étude du 19e siècle qui malheureusement a disparu, qui était dirigée, présidée par Pierre-Marie Ozas. Je crois que c'est avec une de ces deux associations. On avait visité ce musée avant qu'il devienne musée, alors qu'il était encore habité par la famille Sion, par les Sion, qui ont donné à la ville de Paris cet ancien atelier, qui est l'ancien atelier d'Harry Schéffer. Donc, dites-nous un peu, rappelez-nous l'histoire de ce musée, qui est finalement un tout jeune musée.
Exactement. Dans le paysage des musées parisiens, le musée de la vie romantique est un jeune musée, puisqu'il a été créé au début des années 80, d'abord comme musée Renan Schaeffer, en cela lié aux grands donateurs qui ont doté la ville de Paris de ce fonds.
Que Harry Renan, en fait, était de la même famille qu'Harry Schaeffer,
Voilà, tout à
c'était
fait.
lié.
Harry Renan est le neveu d'Harry Schaeffer. Le petit-neveu d'Harry Schaeffer. Enfin, comment dirais-je, la chronologie familiale est assez complexe. En fait, Harry Schaeffer s'installe en 1830 dans le pavillon de la rue Chaptal et fait construire les deux ateliers. Dans cela, en fait, mis en œuvre par un entrepreneur qui s'appelle Wormser. Et en fait, Harry Schaeffer va toujours être locataire des lieux sans jamais vraiment en être possesseur. C'est sa fille Cornelia qui va acheter l'hôtel particulier et l'enclos Chaptal. Ensuite arrivent les périodes, comment dirais-je, Ernest Renan, puisque Ernest Renan va épouser la nièce d'Harry Schaeffer, la fille d'Henri Schaeffer, et donc apparaît en fait le deuxième grand ensemble de collections du musée, qui est ce formidable fonds d'archives lié à la personnalité d'Ernest Renan à la fin ce grand philosophe à la fin du 19e siècle. Et puis cette demeure va rester dans les mains de la famille. Les derniers habitants des lieux vont vont être les Sciouron. Par lien familial aussi, les Vaudallon vont habiter in situ. Il va y avoir un centre d'esthétique qui va être mis en place là par monsieur et madame Revaudallon. Et Malraux va se préoccuper du sort de ce lieu. Et là vont commencer à émerger les premières velléités que ce lieu rentre dans le patrimoine national. Ce qui fut fait donc au début des années 80 avec l'idée au départ de faire un musée consacré essentiellement à Harry Schaeffer et Ernest Renan.
Et Harry Renan qui est aussi peintre également.
Qui est au peintre, qui est aussi bien entendu.
Harry Renan qui est le fils d'Ernest Renan ou...
Non, qui est le neveu.
Encore un neveu. Voilà. Alors, qui est peintre, qui est finalement assez peu connu.
Qui est assez peu connu, quelques œuvres dans le fond et surtout un ensemble assez important de dessins, qui est un élève dans des voisins du musée Renan Schaeffer, puisque c'est un élève des élèves de Gustave Moreau, et qui va avoir une carrière courte, mais tout à fait inscrite dans le courant symboliste de son temps. Donc l'enjeu était constitué donc un musée autour d'Harry Schaeffer et des fonds Ernest Renan autour simplement de ces deux personnalités. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée d'Anne-Marie de Brême à la tête du musée dans le courant des années 80, il a été décidé d'élargir le propos et le cadre du musée en ne se limitant pas uniquement à ces deux grandes personnalités, mais d'en faire véritablement le témoignage d'un quartier et d'une période qui est ce premier 19e siècle, puisque...
Quartier, c'est la Nouvelle Athènes.
La Nouvelle Athènes, bien entendu. Puisque, au-delà d'être peintre, Harry Schaeffer va vraiment animer le quartier et faire de son atelier un lieu de croisement de toutes les tendances parisiennes qui logent à proximité. C'est ainsi que Georges Sand, que trop souvent on pense avoir habité dans les lieux, il n'en est rien, mais en tout cas qui était une très grande familière du lieu avec Frédéric Chopin lorsqu'ils habitaient à deux pas d'ici, Square d'Orléans, des gens comme Dumas, des gens comme Tourguenieff, fréquentent l'atelier d'Harry Schaeffer, et même Delacroix, qui à l'époque était voisin, puisqu'il habitait à son atelier, était à deux pas, rue Notre-Dame-de-Lorette, à 50 mètres. Donc vraiment toute une société, une sociabilité très caractéristique du romantisme qui se met en place au sein de l'atelier. Et donc c'est cela que Anne-Marie de Brême a voulu porter en envisageant donc cette rénovation des intérieurs et en confiant le décor intérieur des lieux à Jacques Garcia, dont ça a été un des premiers grands projets de décoration.
C'est pourtant assez sobre, curieusement.
C'est un des premiers grands projets de décoration de Jacques Garcia, en tout cas pour les musées, et qu'il a fait, on peut le noter, au titre de notre mécénat. Donc c'était...
Oui, ça c'est l'habitude. Enfin, je ne reviendrai pas sur le mécénat de Jacques Garcia. Bon, voilà, il fait effectivement du mécénat. Mais effectivement, c'est quand même, comme tout mécénat, il y a derrière des avantages qui peuvent être simplement de la publicité. Toujours intéressant. Mais il faut dire que l'aménagement intérieur, je ne sais pas, il y a beaucoup... Tout reste de Jacques Garcia, c'est vraiment l'aménagement tel qu'il était conçu par Jacques Garcia, parce que c'est plutôt sobre comme aménagement, c'est plutôt effectivement bien 19e siècle. Là, je trouve que l'aménagement est plutôt réussi, pour le coup.
Oui, tout à fait. C'est vraiment, vraiment complètement sur un décor Jacques Garcia, qui est le cadre de nos collections.
Alors... Un nouveau musée, des murs. Alors, il faut effectivement, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais ça m'étonnerait que beaucoup d'auditeurs ou de lecteurs de la Tribune de l'Art ne connaissent pas le musée de la vie romantique, il faut absolument y aller parce que c'est un cadre charmant. Au printemps ou en été, on peut même prendre le thé. Il y a un jardin, c'est vraiment une demeure. Je me rappelle quand je l'avais visité et qu'elle était encore habitée, on avait vraiment envie d'habiter ici. C'est vraiment tout à fait extraordinaire. Donc, un cadre. Petite partie des collections ont été laissées par les Sciouron également, je pense, des souvenirs de Georges Sand, d'Harry Schaeffer, mais finalement au départ, il n'y avait pas énormément de collections, et si je me rappelle bien, il y avait beaucoup de dépôts, en particulier d'œuvres d'Harry Schaeffer, par le musée d'Ordrecht qui a hérité du fonds Harry Schaeffer.
Exactement. Alors, pour revenir sur la nature des collections présentées au musée de la vie romantique aujourd'hui, alors lorsque le lieu devient musée, il bénéficie d'un premier ensemble qui est le fonds Schaeffer-Renan, donc avec quelques tableaux d'Harry Schaeffer, l'ensemble important de documents et d'archives liés à Ernest Renan, mais... Cornelia Schaeffer, lorsqu'elle meurt à la fin du Xe siècle, fait le choix non pas de donner les œuvres de son père à Paris, mais les donner à la ville natale de Schaeffer, c'est-à-dire Dordrecht. Et donc, lorsqu'il s'agit de doter ce musée d'un fonds sceptique d'être présenté au public, c'est vrai que les œuvres ont été choisies parmi les fonds des autres musées de la ville de Paris, essentiellement parmi les fonds du musée Carnavalet. Il y a deux grands ensembles qui viennent doter le musée en 86-87 lorsqu'on ouvre les lieux. C'est ce premier ensemble carnavalier avec les œuvres liées à George Sand et aussi un autre ensemble d'œuvres liées à George Sand et à Saucisse romantique qui vient de la bibliothèque historique de la ville de Paris, puisque lorsque Aurore Lotte Sand va léguer le fonds Sand à Paris, le fonds d'objets pour faire bref, va à Carnavalet et le fonds d'archives va à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Donc, ce qui explique les deux sources principales. On peut aussi bénéficier comme affectation de collection de l'ensemble d'œuvres léguées par Jacques Chazot au musée Carnavalet, qui est tout ce fonds lié à la personnalité de Rachel et aux grandes actrices et gens du monde du spectacle du XIXe siècle, et qui permet aussi d'évoquer cette sociabilité particulière du XIXe siècle où, ben, au sein de l'atelier de Schaeffer, se croisent acteurs, actrices, cantatrices, gens de musique, gens de littérature, gens de peinture. C'est aussi toute cette spécificité de cette société qui s'établit à l'époque et que veut montrer le musée.
Alors, mais pour les tableaux, je me rappelle tout de même qu'il y a effectivement des tableaux de Dordrecht, maintenant de moins en moins, puisqu'il y a eu une politique, avant que vous arriviez, d'acquisition importante de tableaux, de sculptures, etc., dont certaines œuvres de Henri Schaeffer. Il y a eu des dons. Je me rappelle par exemple des dons Elisabeth et Jacques Foucard, de deux tableaux, un tableau d'Harry Schaeffer et un tableau de son élève Alphonse le Gras, et non pas le Gros, qui d'ailleurs est très proche, je ne sais pas s'il est exposé actuellement, mais c'est un tableau qui est très beau et qui est en tout cas très très proche de l'art d'Harry Schaeffer. C'est des fois, on pourrait se
tromper. Tout à fait. Alors c'est vrai que Harry Schaeffer a animé un atelier important. Alors, pour revenir sur la question des dépôts, c'est vrai que le musée d'Ordrecht a soutenu amplement la création du musée de la ville romantique en faisant des dépôts importants. La difficulté aujourd'hui d'avoir des dépôts dans musée étranger, c'est des choses qu'on est en train de revoir actuellement, puisque un musée étranger ne peut plus déposer dans un musée français. Ah bon? On est beaucoup plus sur une problématique.
C'est interdit, parce que je crois que les musées français peuvent déposer dans un musée étranger. Il me semble d'ailleurs que ça se passe un petit peu, ça va se passer à Abu Dhabi, si je ne me trompe pas. Alors, c'est juste une boutade. Mais je croyais qu'il était possible d'avoir des dépôts de musées étrangers et vice-versa.
On est beaucoup plus dans une problématique, alors on joue peut-être sur les mots, mais de prêts de longue durée. Et donc plus dans une perspective simplement de dépôt. Mais donc Anne-Marie de Brême a mené une politique d'achat beaucoup liée aux arts graphiques et sous la direction de Daniel Marchessault, en effet des œuvres importantes. Mon prédécesseur, donc beaucoup d'œuvres, beaucoup de peintures, on peut rentrer dans les collections, mais aussi de sculptures. Et c'est vrai qu'il y a eu des ensembles importants qui sont rentrés au musée sous sa direction.
Et maintenant vos collections, alors parce que vous avez on verra les expositions, on parlera des expositions bien sûr, mais donc il y a des collections permanentes exposées. Est-ce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont en réserve et où vos réserves sont conservées ailleurs ou est-ce qu'elles sont conservées sur place? On a l'impression que comme il y a eu beaucoup d'achats finalement, est-ce que vous avez de quoi meubler quand il n'y a pas d'exposition, est-ce que vous avez de quoi meubler tout le musée?
Alors, les réserves ont été jusqu'à une époque très récente in situ au sein du musée de la vie romantique. C'est vrai qu'elles étaient pas forcément des réserves aménagées au mieux. Donc l'enjeu avec mon arrivée était de tout déplacer l'ensemble des œuvres qui étaient in situ au musée dans nos réserves, dans les réserves centralisées des musées de la ville de Paris, qui offrent toutes les conditions optimum de conservation et qui permet aussi de redéployer une partie des services du musée. Un des points d'achoppement de ce musée, c'est son manque de place. Et donc, on est toujours en train on essaie toujours de gagner quelques mètres carrés supplémentaires. Et donc, le fait de déplacer les œuvres et de déplacer nos réserves, de mettre toutes ces œuvres dans nos réserves centralisées, permet de dégager des espaces pour redéployer les archives d'avoir des espaces de consultation qui sont quand même bien plus qui sont bien plus utiles pour nous.
Alors, politique d'acquisition qui était importante et que vous avez poursuivie, puisque j'ai par exemple fait une chose intéressante, parce que finalement vous avez appris grâce à moi, mais c'est pas moi qui ai fait l'attribution, vous avez fait une brillante préemption, puisque vous avez préempté un portrait de
Pauline Viardot.
Pauline Viardot. à Drouot. Et donc un tableau que j'avais remarqué, que j'avais vu, j'avais visité à Drouot, je n'avais pas fait l'attribution. Vous l'avez acheté parce que vous avez trouvé ça beau, et effectivement, en rapport par le sujet et par le style également avec le musée. Et c'est avéré, et c'est Stéphane Grodet, donc marchand à Amiens, qui m'a appelé, qui m'a dit, bah, j'étais acquéreur d'un tableau de Pauline Viard, d'Ary Scheffer, en fait, il l'avait identifié comme Ary Scheffer, et finalement, ça a été présenté par vous. Et donc, finalement, vous avez acheté un Scheffer, presque malgré vous, mais en réalité, vous avez bien voulu acheter ce tableau, parce qu'il était, vous avez vu qu'il était tout à fait pour le musée, il était encore plus pour le musée, puisqu'il était d'Ary Scheffer. C'était assez drôle, finalement, ça. Et vous l'avez appris en lisant la Tribune de l'Art, je crois.
Oui, exactement. C'est vrai que la rapidité des procédures de préemption fait qu'on n'a pas toujours le temps de monter tout le dossier préparatoire des œuvres qu'on souhaite acquérir. C'est vrai que l'iconographie déjà liée à Pauline Viardot en faisait une œuvre qui avait tout, qui en fait une œuvre tout à fait, qui a tout à fait sa place au sein du musée de la vie au sein du musée de la vie romantique, puisant un autre tableau de Scheffer représentant
Oui,
Pauline
tout à
Viardot.
fait. Un don, je crois, de. C'était un.
Oui, c'était
C'est
un
un
don.
don,
Il
oui.
est rentré, pardon. Et donc, il offrait, avec ce portrait de Pauline Viardot, offre en plus un type de peinture qui est pas présente dans nos collections, qui est une peinture sur un portrait sur fond d'or, qui est aussi cette part, qui permet aussi de représenter un autre pan très proche de ce qu'est la grande peinture religieuse de la période. Donc ça, c'était une iconographie tout à fait intéressante. Et c'est vrai que Stéphane Grandet avait pu reconnaître dans ce portrait, donc qui est un tondeau, bien le portrait peint par Ary Scheffer qui ornait l'orgue de salon de Pauline Viardot. Et donc c'est d'autant plus c'est une acquisition d'autant plus bienvenue au sein du musée de la vie romantique, puisqu'on présente une double iconographie de Pauline Viardot
En
dans
plus, avec des poses différentes, de tableaux très différents, en
deux
fait.
styles très très différents. En plus, une part de l'œuvre de Pauline Viardot d'Ary Scheffer que nous n'avions pas dans la collection. Donc vraiment, c'est une très très belle opportunité pour nous.
Vous avez fait d'autres acquisitions depuis que vous êtes arrivé, ce qui est assez récent, finalement, hein, parce que.
Alors, on a pu acquérir en fin d'année dernière ce que j'avais pu faire passer en arrivant un beau portrait de Victor Hugo que nous présentons justement dans l'exposition actuellement présentée au musée de la fabrique du romantisme consacrée à Charles
On
Nodier.
va en parler.
Voilà, un portrait de Victor Hugo qui est le projet de lithographie fait par Ziegler et comment dirais-je, fixé la première iconographie de Victor Hugo qui a été publiée en 1830 dans L'Artiste. Et c'est vraiment la première image de Victor Hugo vraiment connue et largement diffusée. 1830, c'est une année très importante pour Victor Hugo, puis c'est le moment de la bataille d'Annie, c'est vraiment le moment où il prend la main et la direction de la nouvelle école romantique et qui met en place ce que fut en certaine manière la bataille d'Arnis, c'est-à-dire une nouvelle école littéraire, mais aussi une nouvelle école artistique qui va, d'une certaine manière, renverser le classicisme ambiant. Donc c'est un portrait de 1830. Le grand intérêt de ce dessin, c'est qu'il est daté de février 1830 et en plein cœur des répétitions d'Hernani. Donc on voit vraiment comment.
Je crois qu'on n'en a pas
Oh,
parlé sur la tribune de l'art.
voilà.
Mais en revanche, je signale tout de suite que cette exposition qui a lieu actuellement, nous publierons ce soir ou demain un article de Bénédicte Maillet-Saint-Georges qui en fera la recension. Voilà.
Et donc c'est tout à fait intéressant de voir comment alors que Victor Hugo prend la main sur le mouvement romantique, en cela supplantant d'ailleurs par ça en cela supplantant Charles Nodier, comment l'image du personnage et l'événement qui marque, dirais-je, cette prise de position sont tout à fait concomitants, et tout cela s'élabore au même moment.
Et donc, alors je crois que vous avez une acquisition en cours, mais on ne peut pas en parler parce que c'est pas encore fait.
Oui, alors nous avons plusieurs projets d'acquisition qui sont en train de se mettre en place, qui vont, j'espère, bientôt être validés par la commission interne des musées de la ville de Paris et au-delà de la commission de la direction régionale des affaires culturelles, mais des projets donc qui sont assez cohérents avec la politique d'acquisition que je souhaite mener au musée de la vie romantique, c'est-à-dire montrer cette diversité, les liens des littératures, peintures, comment De nombreux sujets littéraires sont des sources picturales. En cela, je prolonge la politique d'acquisition mise en place par Daniel Marchessault, et c'est tout à fait bienvenu de montrer comment ce lieu qui a accueilli gens de l'écrit et gens de peinture, de ces rencontres, ces rencontres se concrétisent avec des œuvres d'art, et puis aussi d'ancrer le musée véritablement dans son quartier sur la Nouvelle-Athènes, et donc de conserver des œuvres liées aux grands monuments du quartier. Donc, en étant une des perspectives d'acquisition, c'est un projet de décor pour l'église Notre-Dame de Lorette.
Très bien, nous en parlerons très rapidement dès que ça sera fait. Un mot également des habits du musée. Alors, il y avait une société des amis qui a plus ou moins été. Qui vous la recréez, en fait, cette société des amis du musée. Donc, d'ailleurs, c'est une occasion pour lancer un appel à tous les auditeurs qui voudraient participer à la vie du musée de la vie romantique, bah, d'adhérer à cette association. Dites-nous un mot sur cette association.
Alors, Daniel Marchessault avait tenu à mettre en place une société des amis pour soutenir son action et soutenir en particulier sa politique d'acquisition. C'est une société aujourd'hui que nous reconstruisons. Daniel Marchessault, en quittant le musée, a eu l'élégance de laisser le champ libre à son successeur. Donc, la société des amis s'est mise en sommeil pendant quelques mois, attendant de voir qui succéderait à Daniel. Je suis arrivé, donc on a pu remettre sur les rails cette société qui est vraiment tout à fait essentielle pour soutenir notre action. On veut la reconstituer pour justement soutenir la politique d'acquisition, mais au-delà, soutenir toute l'action culturelle du musée. Et ce qui était une des activités majeures de la Société des Amis du Musée de la Vie Romantique, qui était les lundis romantiques, mettant en place dans l'atelier salon du musée des concerts le premier lundi de chaque mois. C'est une activité que nous reprenons avec une saison de concerts qui se déroule depuis ce mois de septembre et qui s'achèvera en juin avec une nouvelle programmation.
Alors ça c'est bien, mais moi personnellement, ça, je suis plutôt pour qu'on ait des amis de musée, des sociétés d'amis de musée. Je trouve que c'est plutôt mieux quand elles se concentrent sur les acquisitions, qui est un petit peu le rôle. Donc là, elle ne fait pas que ça, elle ne fait pas que des acquisitions. Parce que c'est vrai qu'une société d'amis de musée n'a pas forcément toujours des moyens énormes. Ce qui est intéressant pour vous, vous avez un musée où vous pouvez acheter des œuvres à des prix encore raisonnables. Curieusement, à part évidemment Delacroix ou Géricault, l'art romantique n'est pas très très cher. Donc pour faire de belles acquisitions et le portrait d'Ary Scheffer en est un, ou l'acquisition que vous allez faire, n'en disons pas plus sur le décor de Notre-Dame-Lorette, est une œuvre absolument superbe et pas à des prix exceptionnellement élevés. Donc vous voulez pas concentrer les amis de musée sur les achats?
Alors, si bien sûr, l'objectif de la Société des Amis, c'est vraiment de soutenir la politique d'acquisition du musée, politique de restauration du musée, ça c'est évident. En revanche, l'activité des concerts était une activité fédératrice de cette société d'amis.
D'accord, je comprends.
Donc voilà, pour fédérer
ses amis. Ça permet d'avoir de l'argent, c'est gratuit, ce sont des concerts payants qui permettent d'abonder.
Voilà,
d'ailleurs
exactement.
Les amis.
Ce sont des concerts payants qui se financent par les adhésions et par la billetterie de la des concerts. Et donc ça permet de fédérer et d'accroître le nombre d'adhérents qui viennent pour ces activités, mais qui aussi pourront être intéressés.
Pour l'instant, vous avez encore combien d'adhérents à peu près?
On a une centaine d'adhérents. La société des amis est la nouvelle société des amis est relativement jeune, hein, puisqu'elle s'est mise en place véritablement. Première réunion du bureau, ça a été dans le premier semestre 2014 et une avec l'activité, ça a vraiment été relancé depuis le mois de septembre.
Les cotisations sont déductibles, c'est juste une question pratique.
Comme toutes les associations, mais pas plus. L'objectif serait bien sûr de pouvoir être reconnu. Je pense que l'ambition de la Société des Amis est de pouvoir être reconnu d'utilité publique pour en effet proposer des avantages fiscaux tout à fait importants à ses adhérents.
Et ça, vous pensez que ça, parce que finalement, ça va pouvoir se faire, puisque c'est vraiment pour acheter pour un musée.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est tout à fait envisageable, sachant que de toute façon, on peut d'ores et déjà donner au musée de la vie romantique, en passant pas forcément par chez des amis, puisque par le biais de Paris Musée, un don fait directement, les dons sont tout à fait déductibles.
Voilà. D'accord. Et les amis ont pu déjà acheter une œuvre ou pas encore?
Alors, c'est encore trop. trop récent. Mais l'idée, c'est qu'en effet, l'année prochaine, nous puissions proposer avec la Société des Amis une acquisition en nom.
D'accord. Alors parlons maintenant de votre politique d'exposition. On a abordé celle-ci déjà avec l'exposition en cours sur Charles Nodier, qui d'ailleurs est un petit peu couplée avec celle de la fondation Taylor. Peut-être vous pouvez nous dire un mot je ne sais pas si c'est officiel ou si c'est juste un hasard que la fondation Taylor présente actuellement également une exposition en rapport avec cela.
Alors, pardon, oui, non, c'est tout à fait officiel. C'est un projet qu'on a monté à...
La Fondation Taylor, rappelez en deux mots ce que
c'est. Structure. La Fondation Taylor, en fait, est une fondation créée par le baron Taylor, qui est une fondation de soutien aux artistes, qui aujourd'hui a une activité très liée aux artistes contemporains qui en sont membres, mais qui a été créée par une des personnalités majeures de la première moitié du XXe siècle, qui est donc ce baron Taylor, qui fut tout à la fois entrepreneur de spectacle, homme de théâtre, voyageur. C'est lui qui a constitué la galerie de peinture espagnole pour lui Philippe, qui fut le promoteur de l'exposition du bazar Bonne Nouvelle, commenté par Baudelaire à la fin des années 40. Donc vraiment une personnalité importante et phare de cette première moitié du Xe siècle. Et une des grandes entreprises du baron Taylor associée à Charles Nodier, c'est le projet donc qui est actuellement présenté au Musée de la Vie Romantique en partenariat avec la Fondation Taylor, que sont ces fameux voyages romantiques et pittoresques dans l'ancienne France, qui est une entreprise qui est tout à la fois un récit de voyage, une recension des traditions historiques, voire des contes et légendes locales, et qui est en fait un grand œuvre de description des provinces françaises. Avec une volonté tout à fait affirmée par Nodier, qui est l'homme qui écrit les premiers volumes et l'introduction de l'ouvrage, qui est de mettre le doigt sur l'état de délabrement du patrimoine monumental français dans la première moitié du XIXe siècle. En cela, l'œuvre est tout à fait fondatrice de l'éveil d'une conscience patrimoniale en France à cette époque-là, et annonce véritablement ce que sera l'entreprise de Ludovic Vité puis de Prosper Mérimée dans la préservation des monuments historiques. Au-delà, l'idée était de travailler aussi sur toute l'iconographie de ces voyages pittoresques et montrer comment cet ouvrage, qui est composé de 20 volumes avec plus de 3000 planches d'illustration, est aussi une véritable matrice d'imagerie pour toute la première moitié du XIXe siècle.
Alors, votre politique d'exposition, pouvez-vous nous en dire un mot? Est-ce que vous, donc, Vie romantique, donc, La Nouvelle Athènes, donc, en gros, si je suis bien tout ce que vous dites et ce que je connais un petit peu du musée de la Vie romantique, c'est effectivement, c'est à la fois le monde artistique, mais pas seulement artistique, mais également littéraire, musical, autour, dans La Nouvelle Athènes, et également le quartier de La Nouvelle Athènes, vous l'avez dit, avec les églises, avec les bâtiments, il y a beaucoup de bâtiments très importants, enfin, la Nouvelle Athènes est un très beau quartier de Paris. Donc ce sont les deux axes de vos expositions également, ou est-ce que vous avez...
Alors l'idée, c'est vraiment de concentrer notre politique d'exposition sur la première moitié du XIXe siècle et présenter les différents phénomènes artistiques ou personnalités artistiques liées à cette période. Ce n'est pas un musée qui va se lier complètement à la perspective parisienne. On ne s'interdit pas de faire des projets hors problématique française. C'est d'ailleurs une des perspectives que nous avons pour 2016. Mais en effet, de rester sur ce créneau chronologique. Je pense que le musée de la Vie romantique a en cela une place à occuper. Il traite une période qui est antérieure, et ce qui est assez intéressant de voir que le musée de la Vie romantique se crée au même moment que se crée le musée d'Orsay, qu'il occupe en fait les prémices, enfin l'antéquem du musée d'Orsay, qui dans les cadres des grands musées nationaux, la même période, est occupée par le Louvre. Mais je pense que cette période-là se fond dans le caractère universaliste du musée. Donc je pense qu'un musée très identifié à cette période, dans un quartier qui est très homogène, a tout à fait sa place à défendre dans le paysage des musées parisiens.
Alors pour être plus précis sur les... Voilà, votre... vers quoi vous allez, vers les thèmes, ce que vous traiterez, mais alors donc, quelles sont les prochaines expositions que vous avez prévues?
Alors le prochain projet qui sera monté en partenariat avec le musée de La Roche-sur-Yon, donc pour l'automne 2015, est un projet qui s'intitule « Visage de l'effroi, violence et fantastique » de David Adelacroix. L'idée est de montrer le passage du néoclassicisme à la période romantique, en montrant comment le néoclassicisme porte une vision très violente, très une imagerie très violente et très dramatique, mais légitimée par par la morale antique et par les thèmes qu'il porte, et comment cette imagerie, passant par le biais du traumatisme révolutionnaire et du traumatisme des guerres napoléoniennes, débouche sur sur les visions d'une horreur beaucoup plus quotidienne et des visions aussi beaucoup plus horrifiques. L'idée aussi, c'est de montrer comment quelles sont les visions aussi de l'au-delà de de ces périodes, comment, d'une certaine manière, l'apéro néoclassique a des représentations de l'au-delà très liées à la mythologie ossianesque. Ça permettra aussi de faire un point sur la question des représentations liées à Ossian, et comment, en revanche, l'imaginaire romantique va beaucoup plus s'approprier la personnalité et la littérature de Dante comme représentation de l'au-delà. Et donc, c'est un peu de faire une balance, un contrepoint entre les Ossians de Girodet de Ingres et les Dantes de Schaeffer et de Delacroix.
Et donc avec le musée de la Roche-sur-Yon qui présente la même exposition avant ou après?
Alors la Roche-sur-Yon succédera au musée de la vie romantique. L'exposition sera présentée à la Roche-sur-Yon en 2016. Mais c'est vraiment un projet que nous montons main dans la main.
D'accord. Et alors en revanche, là l'exposition actuellement, les voyages romantiques, se termine quand?
Alors l'exposition, la Fabrique du Romantisme se termine le 18 janvier.
Fabrique du Romantisme, pardon. Et ensuite, alors, de janvier à l'automne 2015, le musée reprend ses droits. C'est-à-dire que vous avez fait récemment quelque chose que j'ai pas beaucoup apprécié. Je suis beaucoup l'actualité ces derniers temps du musée de Picardie Amiens, qui sur le 19e siècle est très actif. Vous avez exposé des œuvres. C'était pas vraiment une exposition, c'était parce que le musée est en travaux, donc ça permettait de montrer des œuvres nouvellement restaurées ou des œuvres nouvellement acquises du musée d'Amiens. Est-ce que vous avez l'intention d'aller d'autres musées, de faire des partenariats comme ceci? En gros, avant votre prochaine exposition, qu'est-ce qui va se passer au musée de la vie romantique?
Alors, il va se passer une période de travaux, ce qui va nous priver de pouvoir reprendre ce que l'on avait entrepris cette année, c'est-à-dire une présentation de dépôts et d'œuvres du musée d'Amiens. En revanche, c'est vraiment une perspective que l'on a pour le futur, puisque jusqu'à présent, les deux ateliers d'Harry Schaeffer, l'atelier salon qui est à gauche lorsqu'on rentre sur la parcelle et le grand atelier qui est sur la droite, est un lieu qui n'était ouvert que pendant les périodes d'exposition temporaire. Et il m'a paru important, en rentrant dans ce qu'est un atelier d'artiste, de le rendre accessible au public de manière pérenne. Et donc, ces espaces sont toujours consacré à une exposition temporaire, mais hors exposition temporaire, de pouvoir l'ouvrir justement avec des dépôts ou des prêts longue durée d'autres institutions qui permettent de mettre en perspective aussi l'œuvre d'Harry Schaeffer présentée dans le pavillon. Pour ce qui est de l'année 2015, des travaux de mise aux normes de l'établissement, c'est-à-dire de climatisation, vont être réalisés dans les deux ateliers, et donc ces deux espaces seront fermés pendant le premier semestre et rouvriront donc avec l'exposition Visage de l'effroi.
Alors donc fin 2015, pardon, cette exposition sur l'effroi. 2016, 2017, 2018, vous avez dit en 2016 vous aviez un projet avec des œuvres étrangères la période romantique.
Tout à fait. Alors là, on travaille actuellement et on est en train de valider un projet avec la Tate, donc musée britannique, un projet autour de la figure de Turner qui aborderait les questions d'représentation de la figure chez Turner. C'est vrai qu'on connaît Turner comme
c'est
un.
C'est intéressant parce que figure Turner, on le voit. C'est un peu comme certains peintres Monet, etc. On les voit sur plein d'aspects, mais des fois Turner, on va à Londres, on a toujours une exposition Turner. Bon, c'est des fois un petit peu répétitif, mais là, sur la figure, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup traité.
Alors, c'est ma manière de montrer un Turner sans doute plus intime, puisqu'on va présenter c'est une exposition qui sera essentiellement une exposition d'art graphique, présentant des carnets de Turner, des carnets d'études anatomiques, parfois même des études qui peuvent être assez érotiques. Mais l'importance, l'intérêt de l'exposition, le sujet de l'exposition serait vraiment montrer comment Turner utilise et place les figures dans ses grandes peintures. Donc comment s'élabore la question de la figure dans la conception du tableau. Comment aussi la diffusion de l'œuvre de Turner par le biais de l'estampe et de la lithographie se fait par le biais d'estampes et de lithographies qui représentent ces tableaux, mais avec des paysages justement habités de très nombreuses foules. C'est vraiment tout l'enjeu de cette exposition.
Et ça sera présenté à la tête également ou c'est uniquement une
C'est un
salle de
projet
réception?
qui est essentiellement centré sur les arts graphiques, sera présenté au musée de la vie romantique.
Essentiellement.
Ouais.
D'accord. Enfin, uniquement.
Uniquement au musée de la vie
Voilà.
romantique.
Et est-ce que vous avez d'autres projets à plus long terme?
Alors,
Donc on peut parler parce qu'évidemment, il y a déjà des projets, il y a des projets qui sont à peu près décidés.
oui, tout à fait. C'est des projets auxquels j'avais pensé en arrivant au musée. On a l'ambition d'un grand projet autour de Baudelaire Critique, mais du premier Baudelaire critique, c'est-à-dire vraiment le critique des salons romantiques.
C'est intéressant parce
Vraiment.
que j'ai toujours trouvé que Baudelaire était un petit peu surfait en tant que critique. Il se trompe quand même beaucoup, hein.
Oui.
Ça, je ne sais pas si vous le montrerez ça ou si ça sera très, très admiratif de Baudelaire. Baudelaire est évidemment un immense poète, un immense écrivain, il n'y a pas de discussion. En revanche, il a des fois encensé des artistes comme William Ossuyer que plus personne ne connaît. Ce serait intéressant d'ailleurs de montrer des œuvres d'Ossuyer. Ou alors des artistes comme
Constantin
Constantin
Guy.
Guisque, quand même pas l'artiste le plus important. Et puis des fois, il tapait beaucoup sur d'autres. Donc vous allez faire effectivement des. C'est intéressant, des expositions sur des critiques.
Voilà, oui, là, ça me paraissait important justement, puisque donc on connaît surtout Baudelaire comme le chantre des peintres de la vie moderne. On le pense à le prosélyte de Delacroix, de Manet. Je pense que c'est aussi un moment important de montrer comment Baudelaire puise vraiment en tout cas son esthétique dans le mouvement romantique, dans tout un tas d'artistes aujourd'hui qui sont, comme vous le disiez, en grande partie oubliés. Donc je pense que c'est tout à fait intéressant de remontrer ces figures artistiques à l'aune des critiques du poète.
Mais on découvre toujours d'ailleurs des tableaux romantiques par des peintres qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, demain passant en tas de rouge, je ne sais pas si vous avez pu y aller, mais il y a un tableau, alors si c'est quand même un tableau assez romantique avec Henri IV. C'est un tableau, il est marqué comme anonyme, en fait il est signé d'un certain Auger, A-U-G-E-R. Je ne sais pas si, je sais pas si vous l'avez vu.
Oui, tout à fait.
Je ne sais pas si vous connaissez ce peintre Auger, mais voilà, donc c'est régulièrement des tableaux passent par des artistes qu'on ne connaît pas. Et c'est peut-être une des vocations aussi de votre musée de faire découvrir des choses qu'on ne connaît pas.
Tout à fait. Heureusement, Béliet-Auvray est là pour nous révéler la
Voilà.
personnalité de ces artistes, en tout cas
J'ai
leur
pas eu le temps de
présence.
l'ouvrir pour Auger, j'ai regardé, mais Auger, je ne connais pas.
Mais en effet, les grandes figures du romantisme, les grandes figures de la période sont déjà présentées amplement dans des grandes institutions nationales ou dans des musées monothématiques. On pense au musée de la Croix, on pense au musée Ingres à Montauban. Je pense que nous, tout l'intérêt de concentrer notre action en partie sur la redécouverte d'une partie de ces artistes moins connus, en tout cas par le biais de la découverte de phénomènes artistiques de la période, faire émerger une peinture qu'on a trop souvent négligée, pour une peinture de très grande qualité et qui est tout à fait aussi importante pour comprendre la période que ses grands noms.
Alors pour conclure ces expositions, encore d'autres choses ou vous préférez pour le moment
À plus long terme, il est évident qui serait, enfin, en tout cas, il y aura un très beau projet qu'on aimerait pouvoir monter, c'est un projet autour de Notre-Dame-de-Lorette, comme un monument emblématique de la période, emblématique du quartier.
Ouais,
Et
c'est un
là,
bâtiment que j'apprécie particulièrement, comme vous pouvez le voir en visant la tribune de l'art.
Ce serait donc intéressant de montrer ce grand chantier décoratif, ce grand chantier pictural, qui, par les critiques qu'il a soulevées et par l'ampleur d'implantation, est vraiment caractéristique de la période, ou aussi montrer sa place dans un tissu urbain. Je pense qu'il y a vraiment, on sera aussi l'occasion de traiter la question de la Nouvelle Athènes et de l'urbanisme de la période. Donc ça, c'est un projet, mais bon, c'est sur lequel qu'on envisage à plus long terme sans l'avoir calé sur un calendrier. Et puis, les idées ne manquent pas. Après, c'est le temps et la place sur un agenda.
Alors, en deux mots, parce que je souhaite en fait, donc les musées de la ville de Paris se sont réunis en établissement public depuis 2 ans, je crois, quelque chose comme ça, avec donc une présidente qui s'appelle Delphine Lévy, que j'espère je pourrai inviter à cette même table pour parler des projets pour les musées de la ville de Paris. Il n'est pas question ici pour moi de critiquer quoi que ce soit, parce que voilà, dans mes articles, on sait ce que je pense de certaines choses, mais il faut reconnaître que par exemple, dans la nomination des directeurs des musées de la ville de Paris, il y a beaucoup de choses qui se passent quand même dans la ville de Paris avec des acquisitions récentes. Par exemple, le Petit Palais, il y a des expositions qui vont venir, celles que vous avez dites. Bon, voilà, donc il faut essayer d'être positivé. Comment travaillez-vous avec vos confrères? Il y a un réseau finalement des musées de la ville, puisque avant les musées étaient complètement indépendants, enfin complètement indépendants dans le cadre de la ville. Maintenant, ils font partie d'un établissement public. Alors, je crois avoir compris, ça c'est quand même à l'honneur de Delphine Lévy qu'elle n'intervient pas sur la direction scientifique du musée, c'est-à-dire que là, je crois que tous vos confrères et vous-même êtes libres de votre programmation et être assez soutenus par rapport à ça. Quel est le rôle en fait de Paris Musée par rapport à vous et comment vous situez-vous par rapport à vos confrères?
Alors, Paris Musée, en effet, et Delphine Lévy en cela, nous laisse complètement libre de nos choix scientifiques, de notre politique d'exposition, politique
Je dis,
d'accueil.
c'est pas vraiment pas de la langue de bois, parce que je peux le confirmer, c'est ce que je sais par ailleurs. Donc
Oui.
c'est vrai, ça.
Oui. Paris Musée, en fait, est une structure qui gère les musées de la ville de Paris dans ses différents aspects. Je pense qu'il y a une ambition certaine de Paris Musée de pouvoir aussi rendre plus présents les musées dans un principe de réseau. L'établissement public est une structure jeune qui a un peu plus d'un an, et donc il faut que les choses se mettent en place. Mais de par la volonté de Paris Musée et puis aussi les bonnes relations que nous entretenons entre nous, directeurs de musée, je pense que des projets transversaux vont à moyen terme voir le jour.
Très bien. Écoutez, nous en parlons à ce moment-là. Et une dernière question par rapport à votre parcours. Vous étiez donc conservateur à Montpellier, qui est une grande ville, mais c'est vrai qu'on a. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience de ce qu'est être conservateur en région, où finalement, c'est quand même beaucoup de vos collègues me disent des fois ils sont un peu isolés par rapport à ce qui se passe. Ils sont pas forcément, ils savent pas ce qui passe en vente. Ils savent pas. C'est un peu compliqué parfois. Malheureusement, il semble que le ministère de la Culture. D'ailleurs, c'est un rapport qui a été rendu. Je vais faire un article sur ce rapport sur les musées. Un rapport qui a de bonnes choses dedans. Pas tout, mais de bonnes choses. Où des députés disent que bah, les musées de province sont souvent trop isolés et pas suffisamment soutenus par le ministère de la Culture et par ce qu'on appelait l'inspection des musées ou le service des musées de France en tout cas. Est-ce que vous sentiez un certain isolement? Et puis maintenant vous êtes arrivé à Paris et c'est vrai que bah, on se voit souvent, finalement on se croise à Drouot, on se croise chez les enfin chez les marchands, on se croise dans les expositions, il y a des rap je me rends compte finalement et ça m'a c'est en vous rencontrant souvent que je me suis dit mais effectivement à Montpellier vous n'aviez pas tout cela. Est-ce que c'est très différent? Est-ce que c'est une vie très différente pour un conservateur? Quels sont les avantages? Quels sont éventuellement les inconvénients de vivre à Paris par rapport à la province? Encore une fois, tout le monde sait, enfin, dans le cas, les lecteurs de la Tribune de l'Art savent que moi, j'ai une passion pour les musées de province, qui souvent font des choses beaucoup mieux que certains musées parisiens. Mais c'est vrai que c'est plus facile peut-être pour vous de travailler comme ça, comment vous situez-vous?
Alors,
Est-ce qu'il y a vraiment un grand changement?
le métier de conservateur, qu'il soit à Paris ou en province, n'est pas très différent. Le métier de directeur de musée, non plus, je pense. En revanche, c'est vrai que le fait d'être à Paris offre une proximité du marché beaucoup plus importante, une proximité aussi des collègues, une proximité des centres de ressources beaucoup plus évidente. C'est vrai que à Paris, on croise beaucoup plus facilement des collègues d'autres musées parisiens et puis aussi des collègues de musées de province, ce
Puis vous êtes
qui
plus à
est
Paris finalement pour travailler aussi.
exactement. Donc c'est vrai qu'il y a une là c'est une dimension tout à fait importante et tout à fait neuve que je découvre. Le musée Fabre est un musée extrêmement bien doté, mais c'est vrai que pour un musée de province, quand on est conservateur d'un musée de province, il faut se déplacer, venir à Paris, planifier une mission. À Paris, on sort de son bureau et
On peut
on
aller
peut
au
facilement
bibliothèque
rencontrer,
ou
voilà.
aller pour les achats, c'est plus
Tout à
facile parce
fait,
que savoir ce qui passe
exactement.
sur le marché de l'art, c'est plus facile à Paris.
Exactement. C'est vrai qu'en province, c'est très souvent en tout cas pour ce qui est le marché des ventes publiques, en province, c'est très souvent lorsqu'on nous signale un objet qui doit passer en vente, que l'on peut monter un dossier d'acquisition, là, on peut simplement en allant à Drouot ou en fréquentant les différentes maisons de vente, que l'on peut déjà cibler des perspectives d'achat.
Très bien, écoutez, nous attendons avec impatience de voir vos prochaines expositions et vos prochaines acquisitions. En tout cas, les prochaines acquisitions, notamment ce décor de Notre-Dame de Lorette, si ça se concrétise comme on l'espère tous, nous en parlerons sur la tribune de l'art. Donc merci, Jérôme Farigoul, d'avoir été avec nous aujourd'hui. La semaine de l'art, pardon, la tribune de l'art continue à publier des articles pendant toutes les vacances de Noël. En revanche, la semaine de l'art va s'arrêter pendant 15 jours. Nous reviendrons le jeudi qui suit le 1er janvier avec un invité surprise, donc on ne donne pas son nom. Et ensuite, nous aurons Jean-François Hébert, qui viendra donc président du château de Fontainebleau. Et ensuite, nous aurons le président et le directeur de la fondation Bemberg à Toulouse. On pourra parler de cette fondation. Donc, un programme assez riche qui se poursuivra l'année prochaine pour la semaine de l'art. Merci et pas la semaine prochaine, donc à dans 3 semaines. Merci.
Merci Didier.
Merci.